enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, on va parler de la vision de l'Église. La vision et des objectifs de l'Église. Parce que c'est important qu'on sache où l'on va. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un chant qui disait « Remets le feu en nous » et il y a marqué « Si tu as perdu la vision », je ne me souviens plus exactement des paroles, c'est la première fois que j'entendais ce chant, ben, « Si on a perdu la vision ben, », ce matin, on ne veut pas la perdre, on veut au contraire avoir une vision. Au Québec, j'ai entendu souvent cette expression, c'est la vision du pasteur. C'est comme ça que vous dites ? Le pasteur va nous donner sa vision pour l'Église. J'espère que ça ne va pas rester ma vision et que ça ne va pas être la vision du pasteur, mais que ce soit la vision de l'Église. Que ce ne soit pas que le pasteur qui voit, parce que la vision, c'est ça. La vision, ça veut dire « voilà ce que je vois ». Le pasteur, il voit, mais nous, on ne voit rien. Et vous allez où ? On n'en sait rien, il n'y a plus qui voit. Non, qu'on puisse ensemble voir et qu'on ait la même vision, même vue et qu'on voit les mêmes choses, qu'on ne regarde pas, qu'il n'y en ait pas un qui regarde à droite pendant que l'autre regarde à gauche, mais qu'on regarde tous ensemble dans la même direction. On prend ça comme texte de base, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas citer la Bible hein, ce matin. J'en ai des versets, j'en ai en masse. Dans Daniel 10, chapitre 7, nous est dit « Daniel, moi, Daniel ». Bon, on peut le lire ensemble si vous voulez. On va tourner la Bible dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 10. Verset 7. Voilà ce que Daniel peut dire. Et ce que je ne veux pas dire. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Que personne ne parte. Que personne ne prenne la fuite pour aller se cacher, saisi d'une grande frayeur. Et ma crainte à moi, c'est d'être seul, avoir une vision. Là. Non, je veux la partager. Et je veux qu'ensemble, on voit la même chose. L'apôtre Paul a eu une vision en son temps, c'était dans Actes 16, souvenez-vous. L'apôtre Paul a eu une vision. Un Macédonien lui apparut et fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Il était là, en prière, et il a une vision. Un Macédonien, passe nous voir. On a besoin que tu viennes prêcher l'évangile chez nous, de notre côté. Et quand on lit la suite du récit, il nous est dit, après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer une bonne nouvelle. Il est dit, c'est Paul qui a eu la vision, mais nous cherchâmes à aller en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait. Paul seul a eu la vision, et Luc n'écrit pas, nous avons conclu que le Seigneur appelait Paul. Non, nous avons conclu que le Seigneur nous appelait à aller dans telle direction. Paul était le seul à avoir eu cette vision pendant la nuit. Mais cette vision, il l'a communiquée, il l'a partagée à ses collègues de route, à ceux qui faisaient ce voyage missionnaire avec lui. Il a communiqué cette vision à tel point que tous ses collaborateurs vont dire, et c'est écrit, nous avons conclu que nous devons, nous tous, ensemble, devions aller dans telle direction selon la vision que Paul avait eue. Puisqu'on est toujours dans Daniel, Daniel chapitre 9, verset 23. C'est à la même page, normalement, à peu de choses près. Chapitre 9, verset 23 de Daniel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Tout a commencé quand il y a eu la prière. Lorsque tu as commencé à prier, ça commence dans la prière. Et la prière, c'est important. Pour ma part, avant d'écrire le texte que vous avez là sur votre bulletin, c'est pas sorti comme ça, tiens, j'ai lu un bon livre, il y avait un bon texte, je l'ai pris. Non. Passe du temps dans la prière. On cherche la face de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Cette parole est venue. Elle est venue vers toi. Et puis l'ange dit, je viens pour te l'annoncer, tu es un bien-aimé. Et voilà les recommandations. Sois attentif à la parole. Vous allez être attentif ce matin, vous me le promettez? Sois attentif à la parole, j'en profite. Et comprends la vision. C'est sûr que ce mot « comprend », c'est important. Comprends la vision. Parce que avoir une vision, avoir, voilà, on sait à peu près où on va, mais on n'y comprend rien. On doit aller en Canaan, mais on ne sait pas où c'est. Tu vas où, Abraham? En Canaan. Et c'est où, Canaan? Je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit d'aller en Canaan, mais alors que je suis là, je ne sais pas s'il faut que j'aille dans cette direction, de ce côté-là. Je vais en Canaan, mais je ne sais pas où c'est. Non. Quand on voit que le Seigneur a appelé Abraham à quitter Ur en Chaldée pour aller dans le pays de la promesse en Canaan, il s'est dirigé dans la bonne direction. Parce que Dieu lui a dit, tu vas en Canaan, le pays que je te montrerai, et il lui a montré dans quelle direction aller. Et il savait, il allait dans cette direction. L'église de Drummondville doit avoir une vision. On a chanté en avant. Il faut marcher, il faut avancer. Nous, on va où? On y va! On va où? Je ne sais pas, mais on y va! On court, dans quelle direction? Je ne sais pas, on court! On va tourner en rond, attention! Il faut savoir où on va. Et c'est bien qu'on ait une vision, qu'on ait un objectif, qu'on sache dans quelle direction aller. Et que ce ne soit pas la vision du pasteur, mais que ce soit la vision de l'Église. Et la vision de l'Église, que ça devienne la vision de chacun d'entre nous. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, c'est mon église. Je suis à l'église de Pentecôte de Drummondville et c'est mon église. Oh, c'est pas une histoire d'être membre ou pas, d'avoir une carte, d'être, comme dit la Constitution, un membre en règle. Non, il ne s'agit pas de règles ou de lois ici. Il s'agit de cœur. Est-ce qu'on peut avoir une carte de membre en règle et puis finalement, pas voir son cœur? C'est mon église. Je l'aime. Moi, je suis le pasteur de l'église de Drummondville, et je ne viens pas ici comme un mercenaire. Vous savez, à un moment, Jésus va parler du bon berger et du mercenaire. En disant, moi, je suis le mercenaire de l'église de Drummondville. Je suis là, mais je ne sais pas trop ce que je fais là. Moi, je viens de France, mais je vais débarquer là. Je suis à Drummondville, mais ce n'est pas vraiment ma place, mais enfin... On est aussi bien là qu'ailleurs. Voilà, et puis bon, on est bien accueillis, on est au chaud. Je suis pas venu ici pour avoir un salaire. Je savais ce qu'il faut à Montréal. Je suis pas venu ici pour avoir une place où être, pour avoir un pupitre et un micro, puis pouvoir un peu prêcher, parce que ça me fait du bien de prêcher. Non, je suis pas là pour ça. Je suis pas là comme un mercenaire qui vient pour faire une profession, pour... On est là comme un berger qui aime. Et même Jésus va dire qu'il se donne. Ça, c'est ma mission, ça, c'est mon rôle, et je peux dire, c'est mon église. Et mon cœur est ici. Bon, je vais dire quelque chose, mais je ne veux pas le dire. Enfin, je vais le dire quand même. Parce que, vous savez, des fois, quand on commence comme ça, il voulait dire quelque chose, puis il ne nous l'a pas dit. Mince, on est curieux, hein? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Moi, j'en parle tout à l'heure, mais... Je veux dire par là que mon cœur, il est dans cette église. Quand j'apprends qu'il y en a qui disent, ben non, nous, on veut plus être dans cette église. On veut aller dans une autre église. C'est leur choix. Je respecte ce choix. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'aime cette église. Je veux que cette église, elle soit belle et sans tache devant Dieu. C'est mon rôle aussi, c'est ma responsabilité. Et que cette église grandisse. Je disais au téléphone il n'y a pas longtemps à des gens, je dis, c'est vrai que l'église elle n'est pas parfaite aujourd'hui. Personne n'est parfait, même le pasteur, il n'est pas parfait. Mais j'espère, et je prie pour ça, que si vous avez l'occasion de repasser dans l'église dans un an, vous verrez du changement. Et que vous verrez une église qui a grandi. Et que ce que vous reprochez peut-être aujourd'hui à l'église, en revenant dans un an, vous direz ça a changé. Ce n'est pas comme au temps où on est parti. Les choses ont changé. Il faut que notre église change. Mais notre église, c'est moi. L'église, c'est nous. Il faut qu'ensemble, nous changions. Mais pour que l'église grandisse et fasse des progrès, il faut y mettre son cœur. Il faut s'impliquer. L'église, c'est pas les autres. L'église, c'est nous. L'église, c'est pas le frère qui est, ou la sœur qui est assis à votre droite ou à votre gauche seulement. L'église, c'est vous. L'église, c'est nous. Et c'est important d'y mettre son cœur. De s'impliquer, de s'investir, de s'engager. L'Église demande un engagement. Quand je dis c'est mon Église, ça veut dire que je m'engage, je m'investis, je donne pour mon Église. Je ne suis pas un membre comme ça, juste avec une carte, mais bibliquement parlant, c'est membre d'un corps. Et bien là, l'Église, c'est le corps de Christ. Je suis membre d'un corps. Un corps, quand il y a un membre qui souffre, tous les autres membres souffrent. Quand un membre se réjouit, tous les autres membres se réjouissent. Parce que c'est un corps qui est vivant. Qui est vivant. Dans un corps mort, quand quelqu'un a un membre mort dans son corps, vous savez, des fois, il y a des gens qui, malheureusement, ont une main sèche. Par exemple, il y a cet homme dans la Bible. Ben, on peut taper sur la main, ça fait pas mal. Parce que c'est mort. Mais nous sommes appelés à être un corps vivant, dans lequel il y a la vie. Et quand quelqu'un souffre, tout le corps souffre. Quand quelqu'un se réjouit, tout le corps se réjouit. Et parce qu'on est un seul corps, une seule église, membre d'un même corps, on va tous dans la même direction et dans la même vision. Et c'est important qu'ensemble ce matin, on puisse comprendre et adhérer de cœur, de corps et d'esprit à la même vision. Ce n'est pas une vision que je veux vous imposer, mais il faut qu'on soit ensemble. Je priais pour cela, je pense que le Seigneur, en tant que berger, conducteur, a mis ces choses sur mon cœur. J'ai la responsabilité d'être devant le troupeau et qu'on puisse ensemble marcher dans la même direction. Qu'il n'y en ait pas qui disent, bon, ils vont par là, moi je vais passer par là. Même si le chemin que vous avez en vue est meilleur, c'est possible que vous ayez un chemin meilleur. Mais il vaut mieux qu'on soit ensemble dans un chemin qui est peut-être un peu plus long, mais ensemble. Qu'il y en ait deux ou trois qui prennent un raccourci, puis que finalement on ait du mal à se retrouver. Les jeunes, là, il y en a qui ont voulu aller plus vite vendredi soir. Ils se sont dit, on va pas attendre les autres, hein, nous on va aller plus vite. Ben oui, mais ils sont arrivés plus vite à Québec, mais ils ont tourné pour trouver l'église. C'est bien qu'ils soient arrivés après le groupe. S'ils étaient restés avec le groupe, ils seraient arrivés plus tôt. Bon, on y va. On va lire le texte concernant l'église de Pentecôte de Drummondville. J'aspire à une église accueillante, compatissante et chaleureuse, où le malheureux trouve du réconfort et le désespéré de l'espoir. Une église où la prédication de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. Une église, une maison de prière, qui aspire à la puissance du Saint-Esprit, ainsi qu'aux dons spirituels. Une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. Une église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. Une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. J'aspire. J'aurais presque pu l'écrire en grec. J'aspire. En grec, zélo, zèle. J'aspire. C'est le même verbe qui a donné en français zèle, être plein de zèle. Cette aspiration, c'est là où je vais mettre tout mon zèle. C'est pas juste un souhait en disant, oh, j'aspire, je souhaite. C'est pas un souhait lointain, mais c'est un zèle. un zèle qui nous anime et qui est là comme un feu dévorant en dedans de nous-mêmes, j'aspire. J'aspire à une église accueillante. Pourquoi ça commence par ça? Pourquoi on n'aurait pas pu dire, non, là, il s'est trompé, il aurait dû commencer par une église de prière ou commencer par autre chose. Bon, de toute façon, il faut commencer par un point. Mais une église accueillante, parce que quand la première chose qu'on fait quand on va à l'église, ben, on rentre, et c'est important d'être bien accueilli. Une église accueillante. Une église où on se sent accueilli. Une église qui accueille les autres. Dans Romains 15, 7, il est dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a accueillis. Il a fait cette promesse, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur nous accueille de cette façon. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui, mais il nous accueille. Laissez venir à moi les petits enfants. Il est celui qui accueille et qui nous reçoit dans sa présence. Et nous sommes appelés en tant qu'Église de Dieu à être accueillants, à recevoir, à accueillir, à démontrer l'amour et à accueillir comme Christ a accueilli. Une Église accueillante, une Église compatissante. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Une Église compatissante. C'est quoi la compassion? Vous allez dire, on n'a pas fait le grec. C'est pas grave, c'est du latin. La compassion. J'aurais du mal à vous le dire en latin, moi j'en ai pas fait beaucoup. La compassion, oui, ma femme elle est capable de lire, mais j'arrive pas à entendre. Compassion, souffrir avec. C'est ça la compassion. Souffrir avec. Une église qui soit capable de souffrir avec ceux qui rentrent et qui sont pleins de souffrance. Quand il nous est dit Jésus ému de compassion, ça veut dire que Jésus, quand il voit un homme souffrir, il va souffrir de sa souffrance. Et il va dire, je sais, je connais ta souffrance. Et même, il nous a dit que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, lui, a connu toutes les souffrances. Et quand il est mort à la croix du calvaire, il a connu, il sait. Et il peut compatir à nos besoins, parce qu'il est passé par les mêmes souffrances. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, qu'on puisse être compatissant. Qu'on ne soit pas là, dur, mais compatissant. Que quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Vous allez dire, oui, mais s'il n'avait pas fait telle bêtise, il ne souffrirait pas. S'il avait réagi d'une autre manière, il ne serait pas dans la souffrance. Vous savez, le Seigneur, quand il nous regarde et quand il est ému de compassion, vous savez, quand un enfant pleure et qu'on va le consoler, est-ce que vous allez dire, moi je le console que s'il y a des bonnes raisons, hein? S'il est allé toucher ce qu'il fallait pas, puis qu'il pleure, il s'est fait mal parce qu'il est allé mettre la main là où il fallait pas, parce qu'il est allé jouer avec les allumettes, ou parce qu'il est allé dans le garage où il n'avait pas le droit d'aller, ben, il pleure, t'as qu'à pleurer, il fallait pas y aller, hein. C'est pas ça, la compassion. Faut reconnaître que dans notre monde, il y a bien des gens qui souffrent, à cause du péché, à cause de mauvaises décisions, à cause de choses, s'ils n'avaient pas mis le pied, s'ils n'étaient pas allés dans cette direction-là, souffrirait pas aujourd'hui, mais on est appelé à être compatissant, à souffrir avec, à pas raisonner la souffrance, mais à plutôt calmer la souffrance, à apporter du soulagement. Une église chaleureuse. J'en reparlerai ce soir, quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Un cœur qui brûle au-dedans de nous. Une chaleur. Ça faisait du bien quand on l'entendait nous parler de ce qui le concernait dans les Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas? Une église où on ressent de la chaleur. Une église chaleureuse. Un cœur qui brûle quand on est là au contact de l'Évangile, quand on est là au contact de la parole de Dieu. Oui, une église chaleureuse aussi, parce qu'on trouve du réconfort, on trouve du soutien. S'il y a la compassion, il y aura cette chaleur. Une église chaleureuse. Quand il fait froid, on est content de rentrer dans un lieu chauffé. Vous étiez content ce matin qu'il y avait un peu de chauffage dans cette église. Que l'église soit chauffée. Mais Ça, c'est pour le corps. Mais il faut pareil pour le cœur. Il y a des fois certains cœurs qui vivent le froid et le froid intense, qui ont besoin de chaleur dans le cœur. Que dans cette église, on puisse trouver de la chaleur. Une église dans laquelle le malheureux va trouver du réconfort. On annonce quelque chose là, hein, à l'entrée. Il y a une Bible là. Il y a marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette Bible? Tout ça? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ça veut dire qu'on est en train d'afficher, si tu es malheureux, crie à l'Éternel, et il entendra. Est-ce qu'on est en train de dire ça, est-ce qu'on a mis ça, juste avant d'entrer en disant, c'est pas la peine d'entrer là, hein? Si tu as un malheur, tu cries à l'Éternel, ne viens pas nous embêter. C'est pour ça qu'on a mis ça à l'entrée. Pour dire, quand un malheureux crie, oh, ça, occupe-toi avec Dieu. Crie auprès de Dieu et il va s'occuper de toi. C'est ça? C'est ça notre message? Pourquoi c'est à l'entrée alors? C'est pas pour repousser le malheureux et pour dire non, non. C'est pour dire oui, ça, ici, c'est une maison de prière. Comme la promesse que Dieu avait faite à Salomon lors de la dédicace du temple, quand ils viendront dans ma maison et quand un malheureux viendra dans ma maison et qu'il criera, qu'il demandera du secours, je l'exaucerai des cieux. Eh bien, le malheureux doit trouver du secours. C'est-à-dire qu'il le trouve auprès de Dieu. D'accord? Alors, on n'a rien à faire s'il le trouve auprès de Dieu. Ou est-ce que Dieu veut se servir de nous aussi pour apporter du secours aux malheureux? Vous avez remarqué que même dans le livre des Actes, à un moment, et puis on le voit aussi dans quelques épîtres, l'apôtre Paul fait une collecte. À Corinthe, en Galate et autres, il fait toute une collecte parce qu'il y a des malheureux et il y a besoin à Jérusalem. Et là, ils se disent, vas-y, ils ont qu'à crier à Dieu et puis Dieu va pourvoir à leurs besoins. Mais la compassion et leur cœur les poussent à agir. Quand que le malheureux puisse trouver du réconfort au milieu de nous, que le désespéré puisse trouver de l'espoir. On est dans un monde désespéré. Et peut-être s'il y a cette phrase aussi dans cette vision, c'est peut-être en pensant particulièrement à cette statistique qui est triste, à savoir que, si j'ai bien compris, Drummondville a le plus haut taux de suicide parmi les jeunes dans tout le Québec. Et déjà, le Québec, dans le monde entier, est bien placé. Je ne sais pas si c'est même pas un des premiers pays dans le monde entier concernant le taux de suicide parmi les jeunes. Il y a du désespoir, mais nous avons un Dieu d'espoir. Que notre vision soit de dire, on ne veut pas que les désespérés restent sans espoir. Ils doivent savoir, ils doivent connaître. Il faut que ce lieu soit un lieu d'espoir. Et que le malheureux, que le désespéré, qui cherche du secours, puisse savoir et que ce soit de notoriété publique. Tu es malheureux, tu es désespéré, va. Dans cette église, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est pas nous, l'espoir, c'est notre Dieu, c'est vrai. L'espoir, c'est Jésus. Mais qu'on puisse, nous, les amener à Jésus, afin que là, ils trouvent secours et espoir. Dieu pouvait dire, à travers du prophète Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a en Dieu de l'espérance. Christ, notre espérance. L'espoir est en lui. Une église où la prédication de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous allez dire, oh ben ça ne nous concerne pas. Prédication, là, c'est l'affaire du pasteur. Ah, ça vous concerne. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, pouvait dire, priez pour moi. Afin que lorsque j'ouvre la bouche et que je prêche, je le fasse avec hardiesse. Parce que prédication, ça ne doit pas être des mots, ça ne doit pas être des paroles. Parce que Paul va dire, je ne suis pas venu vers vous avec un langage, avec des paroles, mais avec la puissance. Et nous voulons, et moi c'est ma prière, c'est le cri de mon cœur, que ce ne soit pas des paroles et des paroles, des sermons et des sermons, mais que la puissance de Dieu soit manifestée. Puissance de Dieu. La prédication de la croix, dit Paul aux Corinthiens, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. En proclamant, en prêchant, en annonçant la bonne nouvelle, l'évangile, en annonçant l'œuvre de la croix, que ce soit plus que des mots, mais que la puissance de Dieu manifestée à la croix, que la puissance de Dieu par son Esprit Saint soit manifestée au milieu de nous, et que cette puissance soit vue, on voit des miracles, qu'on voit la gloire de Dieu, par l'obéissance à la parole, à cette prédication. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, » dit l'apôtre Paul aux Romains, « c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Nous soyons là dans cette puissance et réalisez que la prédication, la proclamation, c'est puissant. Maintenant, notez bien que dans le contexte, la prédication, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit prédication, on pense au pasteur. Mais dans le contexte, la prédication, c'est pour tout le monde. Vous êtes tous appelés à être des prêcheurs, si je peux dire ça comme ça, à être des prédicants, appelez ça comme vous voulez, à être de ceux qui prêchent et qui annoncent. Allez par toute la terre, annoncez. Le terme grec ici, c'est évangéliser. Et on est tous appelés à annoncer l'évangile, à prêcher l'évangile, à proclamer l'évangile. Et là, même dans votre lieu de travail, auprès de vos voisins, auprès des gens qui sont autour de vous, vous puissiez réaliser que quand vous parlez de la foi, que quand vous parlez de l'Évangile, il y a une puissance derrière. Même si c'est là, dans un moment tout simple, autour d'une tasse de café, même si c'est là, vous êtes en train de parler à vos collègues de travail ou à quelqu'un qui est auprès de vous, mais parlez de l'Évangile, parlez de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du calvaire, c'est puissant. Peut-être que vous sous-estimez ces temps d'évangélisation en disant « bon, ben, je lui ai parlé un peu, mais il y a besoin de plus ». Non, ce que vous dites, les quelques paroles que vous allez prononcer, si c'est l'œuvre de la foi, si c'est la bonne nouvelle, c'est une puissance qui est là. Et même si vous ne voyez pas, même si les murs ne tremblent pas, même s'il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent, il y a quelque chose de puissant qui est à l'œuvre dans le cœur. Et pour voir cette puissance à l'œuvre, ça commence par ouvrir la bouche, par parler et par proclamer. Une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. Je trouvais qu'au Québec, il y avait beaucoup d'églises qui avaient un titre. Vous avez vu ça? Qui avaient un slogan, je ne sais pas comment on peut dire, qui avaient un leitmotiv. C'est plus à Nouvelle Vie, c'est une église pour aujourd'hui. Quelque chose comme ça, non? Vous n'avez pas vu ça? Église Nouvelle Vie, une église pour aujourd'hui. Il y a une église pas loin à Victoriaville. Église de Victoriaville, une église qui aime les gens. Vous n'avez pas vu des slogans comme ça? J'étais un peu jaloux, je dis, ben nous en faut. Hein? Alors, on va en prendre un. Église de Pentecôte de Drummondville. Bon, ça c'est notre nom, on va le garder, on va pas changer de nom. Église de Pentecôte de Drummondville, une église en mission. Ça va, c'est pas trop long à retenir, c'est court. Une église en mission. Ça veut dire quoi, une église en mission? Ça veut dire une église qui a une mission. Est-ce que vous avez une mission? Une petite mélodie là, toum toum toum, c'est déjà. Votre mission est, si vous l'acceptez, c'est pas une mission impossible. C'est pas une mission impossible. Avec la puissance de Dieu, tout est possible. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, mais là, c'est pas possible, c'est trop grand, il n'y arrivera pas, on est trop faible, on est trop petit. Il ne faut pas avoir le complexe de Gédéon, là. Notre Dieu est grand. Et nous avons une mission. L'Église est en mission. En mission, si on joue sur les mots, c'est-à-dire que c'est une Église qui est dans le champ missionnaire. Ah oui, on va dire, ben, on connaît une petite église en Afrique, là, qu'elle est en mission. L'église de Drummondville, elle est en mission, quelque part. Le champ, c'est le monde. Nous sommes là, dans la grande mission, aller par tout le monde. Vous savez, quand ça a été dit, aller par tout le monde, ça a été dit à Jérusalem. Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait d'ici. Ce n'est pas la même température. Si on avait dû envoyer un des 12 à Drummondville, il aurait dit, oui, c'est frais par ici. Nous sommes dans un champ missionnaire. Mais l'Église en mission, c'est prendre conscience qu'il y a une grande mission qui est là, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Est-ce qu'on est capable ce matin de faire ce que Jésus nous dit, en disant, Seigneur est en train de dire, arrêtez! Vous dites qu'il y a encore 4 mois, on a le temps. On a le temps pour moissonner. On a le temps pour la mission. On a le temps pour rentrer dans cette œuvre de mission. Et Jésus dit, levez les yeux. Bien souvent, nos yeux sont fixés sur nos pieds. Et le Seigneur dit, lève les yeux. Pourquoi lever les yeux? Ben, regarde plus loin. Arrête de regarder sur toi. Arrête de regarder à tes problèmes, à tes difficultés et à dire ce matin, moi je suis venu dans l'église pour moi. Je viens dans l'église parce que je veux être béni. Je viens dans l'église parce que je veux recevoir. Et j'espère que ce matin, il y aura quelque chose pour moi. Je viens dans l'église parce que j'ai besoin. Et le Seigneur dit, arrête et lève les yeux. Et regarde autour de toi les champs qui blanchissent déjà. Il y a une mission. Et l'église, c'est pas l'église pour nous. L'église, elle a une mission. Et la mission, c'est pas « prends soin de toi, petite église ». La mission est « les champs sont blancs ». Et il y a besoin d'œuvrer dans le champ missionnaire. Et il y a besoin d'œuvrer dans le monde des perdus. Et de proclamer, d'annoncer une bonne nouvelle. L'apôtre Paul disait aux Romains, Romains 10, 1, « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Est-ce que c'est le vœu de votre cœur et la prière à Dieu en ce qui concerne les gens de Drummondville et de ceux qui y habitent autour, qu'ils soient sauvés? Est-ce que c'est votre priorité, l'Église en mission, une Église qui va mettre de côté tous ses besoins, ses préoccupations, peut-être des besoins légitimes, mais de dire, il y a une mission, il y a des champs qui sont blancs, il y a des âmes qui vont en enfer, il y a trop de monde qui sont désespérés autour de nous. Nous avons une mission que le Seigneur lui-même nous a confiée. Voyez-vous, il n'a pas demandé à ceux qui habitent un peu plus loin de venir s'occuper des gens de Drummondville. Et puis nous, ce matin, on va apprendre que le Seigneur nous demande de nous occuper des gens de Victoriaville. Ce n'est pas logique. On est à Drummondville. Le Seigneur attend qu'on s'occupe de ceux qui habitent Drummondville et de ceux qui sont dans cette région, dans ces petits villages, ces campagnes, ces rangs qui sont autour de Drummondville. Mais levons les yeux pour voir ces champs qui sont blancs. Une église en mission qui se préoccupe. Préoccupé. Ça vous arrive d'être préoccupé? Quand vous êtes préoccupé, des fois on a du mal à dormir parce qu'on est trop préoccupé. Alors quand on est préoccupé, on dit, mais à quoi tu penses là? Ben, je suis préoccupé. C'est comme si ce qui nous préoccupe là était toujours à notre esprit. C'était toujours là et on y pense sans cesse, on y pense continuellement. Et c'est une idée qui est là et qui est constamment en nous. Mais est-ce qu'en ce qui concerne la mission que Dieu donne à l'Église, est-ce qu'on a le droit d'être préoccupé en ce qui concerne les perdus? Est-ce qu'on est préoccupé en ce qui concerne les perdus seulement quand le pasteur, de temps en temps, il nous secoue un peu, mais après on oublie? Est-ce que demain matin, quand vous serez là dans votre lieu de travail, vous allez voir ceux qui sont autour de vous et être préoccupés par leur vie éternelle? Ben, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'on se reverra après la mort? Est-ce qu'on est préoccupé? Est-ce que ça nous préoccupe, disant, mais mon voisin, ma voisine, mes parents, mes amis, quel est leur sort éternel? Une église préoccupée du sort des perdus et des laissés pour compte, de ce que personne ne veut, de ce que tout le monde rejette. Jésus lui-même est un exemple. Il va auprès des gens que les autres repoussaient, rejetaient. On le voit en compagnie des lépreux. Personne ne voulait s'approcher d'un lépreux. Et Jésus le touche et assainit son corps. On voit dans cette parabole de Luc 14, 21, où le maître de maison va dire « Va dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Amène ceux qui ont besoin et ceux qui veulent répondre à cette invitation. Qu'on soit là préoccupé par le sort des perdus, qu'on ne fasse pas de tri. Nous allons nous occuper des perdus et des riches seulement, comme ça va nous aider financièrement. Le trésorier va être content. Nous, notre but et notre mission, c'est d'évangéliser les riches de la ville. Les autres, non. Notre mission, c'est d'évangéliser les riches. Oui, c'est vrai. Hein. On va pas les mettre de côté. Mais d'évangéliser tous. Et remarquez que Jésus était davantage vers les plus pauvres que vers les plus riches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de plus riches qui suivaient Jésus. Mais personnellement, je crois, et puis je ne suis pas le seul à le croire, puisque j'ai lu un livre de Yang Gisho qui disait ça aussi, je dis tiens, il pense comme moi celui-là, comme quoi on arrive à avoir les mêmes idées. C'est-à-dire que quand on s'occupe des plus pauvres, toutes les autres vont suivre. Mais quand on s'occupe des autres, les plus pauvres viendront pas. C'est-à-dire que si nous nous tournons vers les plus pauvres, on va toucher toute la population. Même ceux qui financièrement, qui socialement ont une certaine situation dans la société. Mais si nous visons une certaine classe de la société, nous fermons la porte à d'autres. Et ça, c'est pas la mission. Je répète ce que je suis en train de dire, si nous nous tournons vers les plus pauvres, on n'empêchera pas les autres de venir. Dites pas, si on vient dans une église où il y a que des gens là qui sont pauvres et autres, puis, vous savez, il y en a qui viennent qui sont pas sauvés, qui vont venir dans toutes sortes d'états, si on a des gens là comme ça, un peu maganés par la vie, quelqu'un qui va être bien sur soi, il va dire, je peux pas m'asseoir à côté de quelqu'un comme ça. Non. Quand on montre l'amour vers les plus pauvres, c'est toute la société qui va être touchée par cet amour qu'on manifeste envers eux. Une église qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. Une maison de prière. Ésaïe 56, 7, vous savez, Jésus a repris cette parole lorsqu'il a chassé les voleurs du temple. Ésaïe disait, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel. » Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison sera appelée une maison de prière. On se souvient de cette phrase de Jésus qui chasse les vendeurs du temple, qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Jésus fait référence à la parole du prophète Ésaïe. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Jésus cite ce que le prophète avait dit. Alors si on va voir ce que le prophète avait dit, c'est la parole que je vous dis, ma maison sera appelée une maison de prière, et dans le contexte, maison de prière pour tous les peuples. Pas maison de prière pour mes besoins seulement, mais maison de prière pour tous les peuples. Et que cette église soit une maison de prière pour tous les peuples. Une maison qui prie, non pas qui prie sur elle, qui prie pour elle, pour les petits besoins, pour nos propres besoins, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une église qui a levé les yeux vers les champs qui blanchissent déjà, et une maison de prière qui intercède, qui prie en faveur de tous les peuples, en faveur de tous qui ont besoin de salut, qui sont là à Drummondville, toute classe, toute race, tout peuple, toute tribu, tous ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre, vous recevrez. Vous l'avez appris, votre verset? On l'a appris quand? Il y a 2 mois, là où... Acte 1.8, ça dit quoi, Acte 1.8? C'est une révision, là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes dans une église de Pentecôte. Nous sommes dans une église de Pentecôte, une maison de prière. On va prier tout à l'heure, on va prendre le temps cet après-midi de prier, d'intercéder. Une maison de prière qui aspire, et là je reviens sur le verbe aspirer en grec, qui a le zèle de ta maison me dévore. Ce que dit Jésus dans le contexte là, quand il dit c'est une maison de prière. Se souviennent les disciples qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, on aspire, on est là plein de feu, de fougue et de zèle. Zèle, aspire à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, non pas pour entendre parler en langue plus fort que tout le monde, c'est plus que ça la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est des miracles, c'est des prodiges, c'est des guérisons, c'est des vies transformées, c'est une parole de Dieu prophétique, claire et précise. Nous aspirons, en tout cas moi j'aspire, à voir la puissance du Saint-Esprit se manifester au milieu de nous, ainsi que les dons spirituels. Une église riche en ce qui concerne les dons spirituels, parce qu'ils sont nécessaires pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 14, 12, « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Une église assoiffée de la présence de Dieu, comme cette biche qui soupire après des courants d'eau, hein, vous connaissez le psaume 42, assoiffée, nous avons soif, et plus nous venons pour être désaltérés, et plus nous avons soif de sa présence. Une église assoiffée de la connaissance de la Bible. Vous cherchez à connaître la Bible davantage? Est-ce que vous avez remarqué, Hélène a oublié d'en parler, c'est moi qui... Ah non, c'est pas le bon. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que sur le bulletin, derrière, il y a un petit plan de lecture biblique? Ça vous intéresse la Bible? Vous lisez la Bible chaque matin? Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à suivre ce plan. C'est un plan, j'allais dire soft, pour commencer en douceur. Hein. C'est un plan de lecture sur 3 ans. C'est faisable, c'est réalisable. Et particulièrement pour les jeunes, suivez ce plan si vous ne lisez pas la Bible régulièrement. Deux chapitres par jour, c'est pas trop lourd, c'est faisable, c'est réalisable. Si vous pouvez en faire plus, allez-y. Mais prendre le temps de lire, de méditer, de chercher à comprendre, à connaître. Cette église, certainement, je peux vous le garantir, on prendra du temps pour étudier la Bible, chercher à connaître davantage. Mercredi soir, on prend un peu de temps pour étudier la Bible, mais on prendra peut-être du temps, peut-être au travers de classes, au travers de cours, parce que c'est important d'avoir une foi solide, basée sur la parole de Dieu, afin que lorsqu'il y a des épreuves, s'il y a là des torrents qui viennent, la maison ne s'effondre pas. Je fais référence à cette parabole de Jésus, quand Jésus dit, le fou, l'insensé, est celui qui construit une maison sur le sable. Le sage est celui qui construit une maison sur le roc. Parce que quand la pluie vient, quand les torrents viennent, et que là les flots s'abattent contre la maison qui est construite sur le sable s'effondre, et la maison qui est construite sur le roc résiste. Oui ? Mais c'est quoi construire une maison sur le roc ? Ça veut dire quoi ? Alors il y en a qui vont me dire, ah mais ça je l'ai entendu depuis longtemps, construire une maison sur le roc, ça veut dire que notre vie soit sur Jésus. C'est ça ? Ça veut dire recevoir l'évangile, c'est ça ? C'est quoi le contexte ? Attention, il ne faut pas confondre cette histoire avec l'histoire des 3 petits cochons. C'est pas la même chose. Vous savez, une maison en paille, une maison en quoi l'autre ? En bois et une maison en brique. Quoique la maison en bois au Canada, ils connaissent, hein ? Et puis la maison en brique. Non, Jésus dit, celui qui construit sur le sable, c'est celui qui entend ma parole. Celui qui construit sur le sable, mais il a construit quelque chose. Celui qui construit sur le sable, ce n'est pas la même chose que celui qui n'a rien construit. Parce qu'il y a dans notre monde des gens qui ne construisent rien, qui vivent sans Dieu et qui ne construisent rien. Mais il y en a qui, pour Dieu, vont construire. Celui qui construit sur le sable est celui qui entend mes paroles, dit Jésus. Et dans le contexte, parce qu'on est là, il y a plusieurs paraboles, on pourrait même dire, et les reçoit avec joie. Ça, je prends la parabole des semeurs, je me le permets. Celui qui reçoit ma parole, il construit une maison, mais elle est sur le sable. Et il y en a un autre qui entend ma parole, qui construit une maison, mais elle est sur le roc. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre le sable et le roc? Les deux entendent la parole de Jésus. Donc la différence, c'est pas Jésus. C'est pas le roc, c'est Jésus, même si on comprend l'image. Mais la différence, et Jésus nous le dit. Et si on fait attention aux petits détails qui sont inscrits, parce que c'est pas un détail, mais des fois on lit trop vite notre Bible. Celui qui construit la maison sur le sable, c'est celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique. Celui qui construit sur le roc, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. La différence, c'est pas entre recevoir ou pas la parole de Dieu. La différence, c'est pas entre aller ou non à l'église. La différence, c'est pas entre connaître ou ne pas connaître, c'est entre mettre en pratique ou pas. Et faites attention. Ce matin, peut-être au milieu de nous, il y en a qui connaissent la parole de Dieu, qui savent, qui connaissent les grands principes de la parole de Dieu, c'est bien de les connaître. Mais si tu n'es pas en pratique, si tu n'œuvres pas, si ta vie n'est pas fondée et n'est pas en pratique la parole de Dieu, ta maison est sur du sable. Et le jour où vient la tempête, elle risque de s'effondrer. Pourquoi on entend autant de drames autour de nous, de gens qui abandonnent le Seigneur? Des gens qui quittent, des gens qui lâchent, toutes sortes de drames, de divorces, de je ne sais pas quoi encore, parce qu'il y a du sable. Et il n'y a pas assez de roc. Et c'est, on va dire, oui, mais pourtant, il est à l'église depuis longtemps. Oui, mais pourtant, il connaît la parole de Dieu. C'est bien de la connaître, mais il faut la mettre en pratique. Pour la mettre en pratique, il faut la connaître, mais la connaître, ça ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Alors, je me suis un peu égaré, mais c'est une église assoiffée de la connaissance de la Bible, mais pas connaître pour connaître, pas faire des études pour faire des études, mais pour mettre en pratique et pour vivre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une église en paix. Est-ce qu'il y a la paix à Drummondville? Dans l'église? Il y en a qui disent, s'il n'y avait pas le frère Intel, oui. C'est ça? Est-ce que l'Église est en paix? Je vous embête avec mes questions, hein? Une Église en paix. Acte 9.31, et c'est pour ça, pour moi, c'est important, une Église en paix. Parce que dans Acte 9.31, il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Une Église en paix est une église qui grandit. Une église en paix est une église qui laisse l'opportunité au Seigneur d'œuvrer au milieu d'elle. Une église qui n'est pas en paix, une église qui a des tensions, des divisions et des chicanes, ben, on limite l'action du Saint-Esprit. Une église en paix est une église qui grandit. Recherchez la paix avec tous, dit Hébreux 12,14, et qu'on puisse être de ceux qui cherchent la paix. Qui cherche faire la paix et que la paix soit pour nous la priorité. Que la priorité ce soit pas j'ai tort ou j'ai raison. La priorité c'est dire quand même j'ai raison ou de dire quand même je suis plus vieux, je dois avoir le respect ou quand même j'étais là avant lui. Non, la priorité c'est pas ça. La priorité c'est la paix. Qu'il y ait la paix dans la maison, qu'il y ait la paix dans l'église. Une église dans l'amour. Être là, dans les mêmes pensées, les mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, 1 Pierre 3,8, une église plein d'amour, dans le respect des uns des autres. Romains 12,10, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Plus encore, de l'amour, plus encore, le respect des uns des autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Qu'on puisse là, par amour, eh bien, se respecter l'un l'autre, respecter sa différence, respecter la faiblesse, respecter le fait que quelqu'un ne comprenne pas les choses de la même manière que nous. Mais par amour, par honneur, on n'est pas là pour brusquer, pour tordre ou pour casser, mais on est là dans la paix et l'amour, respectant, se respectant les uns les autres. Une église dans la compassion, et on y revient, plein de compassion. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Colossiens 3,12. Une église qui va de l'avant. Vous voulez qu'elle avance, l'église? Une église qui va de l'avant. Une église qui va de l'avant, ça veut dire que ça bouge. Ça veut dire qu'on voit la différence entre il y a un an et aujourd'hui. Ça veut dire que si on doit faire le point, puisque là on est en début de l'année, si on doit faire le point dans un an, on peut se dire, oula, on a avancé. Et avancer, c'est pas seulement question de nombre, avancer les progrès. L'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Une église qui va de l'avant, une église qui grandit, une église grandissant, une église qui grandit. On est appelé à grandir. Et je crois que cette église est appelée à grandir. Et je crois que cette église va grandir. Je dois reconnaître que depuis que je suis à Drummondville, J'ai entendu des slogans que je n'avais pas entendus en France. On me dit, c'est une église de... Attends, c'est comment vous m'avez dit? Pentecôte, Pentecôte. C'est bizarre, mais en France, j'ai jamais entendu ça. Et ça vous fait rire? Moi, je veux une église qui monte tout le temps. Et je ne veux pas dire ce matin, je veux croire dans une église qui grandit. Pour que, dans quelques temps, ça s'effondre. Quand on regarde l'histoire de l'église, il y a eu ça. Ça a grandi. Et peut-être quelqu'un va me dire, me voir en disant, oh, vous êtes bien enthousiaste, alors vous êtes jeune et tout, mais vous savez, nous, on en a vu d'autres. Ça va grandir, et puis on sait comment ça se passe, puis il va se passer, je ne sais pas de quoi, et puis, pof, ça va redescendre. C'est comme ça qu'on avance. C'est ça notre vision. Et si c'était ça durant ces dernières années, il faut reconnaître que l'histoire est là, et bien on va casser la règle. On va sortir des règles. Et on va rentrer dans une règle un peu plus biblique, là. Une église de Pentecôte, c'est une église qui est grandie. Il n'y a pas de pente, il n'y a que des côtes. Eh oui. Ça fait une église... Sinon, c'est décourageant dès le départ. Hein. Ça, rien de travailler si c'est pour que tout soit gâché et que... Une église qui grandit. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et si on recherche la paix, si on est là tous dans cette vision-là, eh bien, on a les bons objectifs. Une église progressant dans la maturité spirituelle, qu'on puisse la faire des progrès chacun pour notre part, grandir dans la foi, grandir dans cette maturité spirituelle. Une église active, où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église où chacun travaille. Laissez-moi vous dire, vous avez tous un rôle dans l'église. Même si vous ne le savez pas, vous avez tous une mission. Vous avez tous une tâche, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, afin que vous les accomplissiez. Et je vais essayer, on va essayer ensemble, à découvrir quelle est votre place, quel est votre rôle. Je ne veux pas demander à l'un de faire ça et à l'autre de faire ceci si ce n'est pas sa place. Parce que Paul dit, Dieu est le sage architecte. Eh bien, que là Dieu se révèle dans les temps de prière comme on peut avoir cet après-midi, qu'on peut dire, Seigneur, montre-moi quelle est ma place. Mais en tout cas, votre place, c'est pas de rester assis à rien faire, ça c'est évident. Vous avez une mission, une église en mission, et chacun a sa mission. Chacun a sa part, chacun a son rôle. Oh, certains, il y en a, ils vont recevoir 5 talents, il y en a, ils vont recevoir 1. D'accord. On va pas se comparer les uns les autres, on n'est pas tous appelés à la même mesure. Le Seigneur donne différemment à chacun, c'est vrai. Puis il y a aussi des, il y en a qui vont en donner plus, d'autres qui vont en donner moins, d'accord, en termes de travail dans l'église. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous puissiez dire, quand quelqu'un rentre dans l'église et qui dit, c'est quoi ton ministère? C'est quoi ton service dans l'église? Ben moi, rien. Non, vous avez un ministère, dans le sens, un service, une mission, un rôle dans cette église. Et on va vous aider à le découvrir et à rentrer là-dedans. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit, et en vérité. Une église qui glorifie le nom de Dieu. Et qui glorifie le nom de Dieu, et ça finit par ça, pour montrer que la louange, l'honneur et la gloire, comme on peut avoir un dimanche matin, les temps d'adoration et les temps de louange, c'est pas louer dans l'église seulement. Louer, c'est notre vie tout entière qui loue le Seigneur. C'est louer le Seigneur dans nos manières de vivre, dans notre manière de réagir, une manière de vivre les difficultés, les problèmes, adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, dira Jésus à la Samaritaine, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. J'ai invité les musiciens à venir, et puis là on a vu la vision, vous allez dire, bon, ben, s'il faut maintenant faire tout ça avec les objectifs, ça va prendre du temps. Non, si vous remarquez bien, les objectifs de l'Église sont en fait quasiment la même chose qui est formulée différemment. Et qui est formulé différemment pour nous permettre de mesurer. Parce que quand on a une mission, quand on a des objectifs, il faut que ce soit mesurable. Il y en a qui travaillent dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine de la vente, on leur donne un objectif. Et en fin d'année, leur patron fait un bilan en disant, bon, voyons voir, par rapport à vos objectifs, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Là, ce serait bien que régulièrement, on puisse avoir l'œil sur ces objectifs. Si vous voulez garder ce papier, avoir l'œil sur les objectifs et dire, voyons voir, par rapport à nos objectifs, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on répond à nos objectifs? Objectif de l'Église. Offrir à nos contemporains la possibilité de connaître et de choisir la vie de Dieu en Jésus. On aurait pu mettre tout simplement évangéliser, mais bon, c'est la même chose. En nous impliquant spirituellement dans la prière et l'intercession. C'est important de prier pour les perdus. Et physiquement dans le témoignage. La prière, ça ne suffit pas. Quelque part, c'est hypocrite que de dire « Seigneur, sauve les âmes, mais moi je fais rien. » Seigneur, il nous demande d'agir et d'être des pécheurs d'hommes. On prie, oui, et on agit. Agir physiquement dans le témoignage, l'évangélisation et la compassion. Conduire chacun à grandir dans la foi, l'amour et la connaissance de la vérité en vivant la réalité du message de l'Évangile. Et là, le mot important, c'est vivre. Pas seulement dire le message de l'Évangile, mais vivre le message de l'Évangile. Amener chacun à prendre sa propre place dans l'œuvre missionnaire, en les formant et en les équipant pour le ministère dans l'Église et dans le monde. Dans cette Église, on fera en sorte d'équiper et de former. Honorer et glorifier ensemble notre Seigneur par nos vies, nos œuvres, notre amour les uns envers les autres et nos louanges. Voilà la vision pour l'Église de Pentecôte de Drummondville, une Église en mission. Enfin, maintenant, ça va ensemble, là, on ne peut plus se détacher. C'est collé à l'Église de Pentecôte de Drummondville, une Église en mission. Évidemment, vous pourriez réfléchir sur ces passages, réfléchir sur toutes ces choses. J'aimerais vraiment vous inviter, si c'est là votre cœur, à dire, mais moi je veux marcher dans cette vision, je veux répondre à ces objectifs. J'aimerais qu'on prenne le temps comme, vous savez, quand Moïse a présenté la loi au peuple d'Israël, il leur a demandé après de s'engager, de s'impliquer, de faire un choix. Et le peuple a répondu, on y va. C'est comme là un contrat que l'on passe avec Dieu. Et qu'on puisse, nous, avec notre Dieu, dire, Seigneur, on veut rentrer dans ces choses. On veut être là, dans cette vision, dans ces objectifs. On peut chanter ce chant qui dit, je louerai ton saint nom. Mais quand on est là dans le mot louer, louer, ça veut dire quoi? Louer, ça veut dire rendre la louange. Mais rendre la louange à Dieu dans l'Église, mais rendre la louange aussi à Dieu dans le monde.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.